Victoria, suis-je une bonne mère? Dans les mois qui ont précédé la désintégration de notre mariage, Michael prétendait que mes travers empêchaient Evan de progresser. Je refusais de voir mon fils et ses difficultés de manière objective. Je refusais d'envisager qu'il serait peut-être dans son intérêt d'être avec quelqu'un d'autre, ou peut-être plus précisément, ailleurs. En croyant être la seule à pouvoir aider Evan, je commettais en fait le plus grand péché d'orgueil qui soit. J'étais arrogante, égocentrique, je faisais passer mes besoins de mère avant ceux de mon fils, je ne tenais pas non plus compte de mon mari et de ma fille, je brisais la famille que j'étais censée choyer et protéger. À entendre Michael, on aurait dit que j'étais entièrement responsable des crises de colère d'Evan, de sa violence et de son insomnie chronique. Si seulement j'avais pu être une meilleure mère, Evan aurait été un meilleur enfant. De préférence un enfant enfermé dans un endroit où ses parents pourraient aller le voir quand ça leur conviendrait et où sa petite sœur pourrait oublier jusqu'à son existence. « Arrête de jouer les martyrs », répétait Michael. « Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de ce qui serait le mieux pour lui. On a les moyens, bon sang », ajoutait-il, comme si Evan était un quelconque projet de rénovation qui serait réalisé à notre convenance pour peu que nous y mettions suffisamment d'argent. Pour mémoire, placer un enfant en institution n'est pas facile. Il existe très peu d'établissements pour prise en charge de longue durée. Les bons ont des listes d'attente. Les mauvais sont un cran en dessous des prisons de haute sécurité où beaucoup des enfants comme Evan finiront un jour. Après l'épisode du pied de biche, le troisième médecin d'Evan a dit qu'il pourrait faire un petit miracle pour nous. Il faut à peu près ça pour obtenir un placement immédiat. C'est comme une lettre de recommandation d'un ancien élève fortuné pour faire entrer votre enfant dans la bonne école privée. Sauf que c'est une demande d'un ponte en pédopsychiatrie pour placer votre enfant en établissement spécialisé. L'endroit qu'il recommandait avait été un monastère. Il était connu pour son austère simplicité et ses méthodes structurantes. Je l'ai visité un après-midi, à l'insu de Michael. Les chambres étaient petites et ne risquaient pas de vous stimuler de manière excessive. Les murs de pierre tellement épais qu'aucun éclairage artificiel ne diminuerait jamais la pénombre. L'établissement encourageait discipline personnelle, travail et autonomie. Je me suis fait la réflexion qu'il avait une odeur de maison de retraite, d'endroit où on viendrait mourir. Je n'y voyais pas mon petit garçon de 7 ans. Je n'imaginais pas Evan, avec son sourire radieux et son rire communicatif, parcourir un jour ces couloirs lugubres. Alors, je l'ai gardé à la maison avec moi. Et ce sont mon mari et ma fille qui sont partis. Je ne sais pas si je suis une bonne mère. Evan n'est pas l'enfant que j'avais prévu d'avoir, ce n'est pas la vie que j'avais rêvé de mener. Je me lève chaque matin et je fais de mon mieux. Il y a des jours où je donne trop et d'autres où je suis loin de donner assez. Mais je ne suis pas une martyre. Je le sais parce qu'à 2 heures cet après-midi, je vais faire quelque chose qui n'est en aucun cas dans l'intérêt d'Evan. Et je m'en contrefiche. Je commence mes préparatifs à midi. D'abord, je fais pour Evan un sandwich beurre de cacahuète et confiture et je répands au milieu un comprimé de Valium broyé. Ne me demandez pas comment j'ai appris à faire ça. Ne me demandez pas à quelle pression une mère doit être soumise pour passer ses après-midi à broyer divers médicaments pour les mélanger à divers menus. À signaler qu'il faut quelque chose de sucré. Confiture au miel, par exemple, pour camoufler l'amertume. Le fromage fondu. Il m'a fallu des heures pour réussir à enlever complètement la tache de graisse sur ma baie vitrée. Je sers le sandwich, ainsi qu'une pomme coupée en tranches et un verre de lait, sur la table basse. Evan en est tout ragaillardi. Prendre le déjeuner dans le salon signifie qu'il a le droit de manger devant la télé. C'est un plaisir rare, et Evan tourne déjà la page de ce qui reste de notre psychodrame de ce matin au parc. Ensuite, je mets sa chaîne favorite, la chaîne Histoire. Il est capable de regarder des récits d'événements historiques pendant des heures, depuis les documentaires sur Pompéi, ou les soldats de terre cuite grandeur nature retrouvés dans le tombeau de l'empereur chinois, jusqu'à des images du Titanic. Ses livres préférés sont ceux de la série La cabane magique, dans lesquels Jack et Annie voyagèrent dans le temps. Il adore aussi les ouvrages de non-fiction, les biographies, les beaux livres, les lithographies anciennes. Tout cela le fascine. Il tient ça de son père. Encore une chose que Michael ne saura jamais. La chaîne Histoire diffuse un documentaire sur le creusement du tunnel sous la Manche. On y voit des images de grosses machines et d'hommes casqués couverts de boue. Evan prend la première moitié de son sandwich, fasciné. Je passe devant l'entrée, où je jette un coup d'œil à la porte. Evan a su ouvrir le verrou dès l'âge de 3 ans pour prendre la poudre d'escampette quand ça lui chantait. Les chaînettes de sûreté et les lourdes baies vitrées ne lui résistaient pas non plus. Résultat, ma porte s'orne aujourd'hui d'un verrou à double entrée. J'ai aussi changé les baies vitrées, de sorte que toute entrée ou sortie ne peut se faire que grâce à la clé que je porte autour du cou. S'il y avait un incendie et que je perdais la dite clé, Evan et moi serions brûlés vifs. Mais au moins, il ne peut pas se sauver pendant que je suis sous la douche. À l'étage, je me déshabille dans la grande salle de bain. Je prends un instant pour m'observer dans le miroir, même si je sais que je ne devrais pas. J'étais jolie autrefois. Le genre de blonde platine sur laquelle les gens se retournaient. J'ai compris très jeune le pouvoir que j'exerçais, et j'en ai fait bon usage. Je vivais dans un mobil-home dont nous colmations les fissures avec du papier journal. Je voulais m'en sortir, et mon physique m'en fournirait le moyen. J'ai commencé à courir les concours de beauté et à gagner de modestes sommes d'argent que ma mère, jalouse, volait sur mon compte en banque. J'ai persévéré jusqu'à décrocher une bourse pour l'université. C'est là que j'ai rencontré Michael. J'ai tout de suite su qu'il était exactement comme moi. Séduisant, ambitieux, prêt à tout. On nous avait suffisamment marché dessus comme ça, nous ne l'accepterions plus. J'ai perdu ma virginité avec lui, à l'âge de 20 ans. Même si ma mère me traitait de traînée depuis au moins 6 ans. J'ai pleuré ce soir-là. Dans les bras de Michael, je me sentais vraiment importante. Les concours de beauté ne me décernaient que des titres. C'était Michael qui me donnait l'impression d'être une princesse. Je n'ai plus le physique d'une reine de beauté. J'ai les traits tirés, la peau presque translucide et distendue sur mes côtes décharnées et mon pelvis proéminent. J'ai une énorme tache verte et jaune sur le côté gauche. Je crois qu'Evan m'a poussée dans les escaliers. Des ecchymoses violettes plus récentes sur la jambe droite, des zébrures rouges sur l'avant-bras. J'ai l'air d'une vieille carne. J'ai envie de pleurer. Sur la beauté trop fanée, la jeunesse trop vite envolée, les rêves que je pensais réaliser. Il y a des morceaux de soi, mais je voudrais les retrouver. Mon Dieu, il y a des moments où je voudrais juste les retrouver. 14h. Tout ira mieux à 14h. J'ouvre le robinet de la douche, j'entre sous le jet et je commence à me raser les jambes. Je redescends pratiquement 1 heure plus tard, une éternité dans mon monde. J'ai pris le temps de me passer sur le corps ma lotion à la rose préférée. J'ai poli mes ongles, exfolié mes pieds aux gants de Lufa, mis un après-shampoing spécial sur mes cheveux. À défaut d'être plus jolie, je suis plus reluisante. C'est le mieux que je puisse faire. Evan est affalé sur le canapé. La chaîne Histoire braille. Après le tunnel, ils ont enchaîné sur l'autoroute souterraine de Boston. Le sandwich a disparu. Evan a l'air vitreux. D'abord la dose de lorazépam ce matin, et maintenant ça. Je m'assois à côté de lui. Je rebrousse ses cheveux blonds. Il sort suffisamment de sa léthargie pour me regarder. Jolie. Dit-il d'une voix pâteuse, et je n'en reviens pas de voir que je peux sourire en même temps que je sens mon cœur se briser. Je t'aime. Fatiguée, dit-il. Tu voudrais faire une sieste ? Télé ! Brame-t-il, pas encore totalement dans les vapes. Après la télé, alors. Il s'écarte, le regard à nouveau rivé sur la petite boîte magique. Nous restons côte à côte. Mon fils s'enfonce toujours plus dans une torpeur médicamenteuse tandis que je tripote mon Wonderbra. L'émission s'interrompt pour une page de publicité. Je regarde ma montre. Plus que 10 minutes, maintenant ou jamais. Je prends la télécommande, j'éteins la télé. J'attends qu'Evan rouspète, mais ça ne vient pas. La mâchoire pendante, il est à 2 doigts de l'inconscience. Il ne proteste pas lorsque je le prends par les épaules, que je l'aide à se lever et à monter les escaliers. Pour un enfant de 8 ans, il paraît léger comme une plume contre moi. L'hyperactivité, nous a-t-on expliqué, son agitation perpétuelle. Il pourrait suivre le régime de Michael Phelps et maigrir quand même. Dans sa chambre, je le mets au lit tout habillé. C'est sa 2e sieste de la journée et je le paierai plus tard. Une longue nuit d'insomnie, où mon fils évacuera son énervement en mettant la maison à sac. « Mais ça vaut le coup, me dis-je, du moment que je peux avoir mon rendez-vous de 14 heures. Je regarde ma montre. 3 minutes et quelques. « Maman ?» marmonne mon fils. « Oui, Evan. »«
T'aimes. »«
Moi aussi je t'aime, chérie. »«
Pardon. »«
De quoi, chérie ?»«
Pour ce matin, je voulais pas faire de mal. »« Je voulais pas... »« Je voulais juste un ami. »« Personne ne m'aime, même papa. »
Je ne réponds rien. Je lui caresse simplement la joue en regardant ses cils épais se fermer en papillotant. Je voudrais lui dire que tout ira bien. Je voudrais lui dire qu'on ira au parc une autre fois. Je voudrais lui dire qu'il se fera de nouveaux amis et que son père l'aime encore. Au lieu de ça, je sors discrètement dans le couloir et j'enferme mon fils à clé dans sa chambre. On sonne à la porte. Un dernier coup de main nerveux dans mes cheveux et je descends. Mon amant m'attend sur le seuil. Il est habillé décontracté, un t-shirt blanc tendu sur son torse musclé. Ses cheveux mouillés bouclent sur sa nuque. Il sent le savon et le soleil, et j'ai envie de prendre un instant pour le respirer. La jeunesse, la liberté, les jours d'insouciance. Il a l'odeur de ce que j'ai perdu, et certains jours, c'est aussi pour ça que j'ai envie de lui. « Je n'ai qu'une heure », annonce-t-il. Cela ne me surprend pas. Au début, il faisait durer. Nous partagions des préliminaires, des conversations sur l'oreiller, le bien-être qui suit l'acte sexuel. Et puis quelque chose a changé. Il est devenu moins charmeur, plus exigeant, et nos intermèdes sont devenus moins romantiques, plus contractuels. Je le sens crispé. Il va encore être brutal, grossier même. La femme que j'étais autrefois l'aurait mise à la porte. Aujourd'hui, je lui ouvre en grand et le laisse rentrer chez moi. « Evan ?» vérifie-t-il. « Je dois au moins lui reconnaître ça. Nous nous sommes rencontrés à cause d'Evan. Il sera au moins sorti une bonne chose de tout ce gâchis, me disais-je avant. Je ne suis plus aussi sûre. » Il dort. Enfermé à clé, nous ne serons pas dérangés. Il me décoche un sourire qui me fait déjà de l'effet entre les cuisses. Il me conduit au salon, ses doigts calleux serrés sur mon poignet. Au dernier moment, je regimbe. Je cherche, je voudrais... Et ma surprise, m'entends-je demander. On n'est pas lundi, répondit-il en me guidant vers le canapé. 2 jours, c'est bientôt. Impatiente. Il me lance un regard de biais, à la fois séducteur et dangereux. Il y a des ombres dans son regard. Pourquoi ne l'avais-je pas remarqué avant? Ses yeux bleus, autrefois si limpides, sont aujourd'hui noirs comme la nuit. « Le fantôme, me dis-je. Le fantôme ne me fichera donc jamais la paix. » Alors je n'ai plus envie de penser. Je ne veux plus savoir. Sauf que maintenant, c'est moi qui me couche à plat ventre sur le bras du canapé, pendant que des mains d'homme soulèvent ma jupe, empaument mes fesses et descendent d'une braguette derrière moi. Je sens le soleil d'août qui irradie de sa peau. Il m'emmène ailleurs. Dans un monde où je suis encore jeune, où mon mari m'aime encore, et où nous marchons main dans la main au Mexique en contemplant le coucher de soleil, persuadés que les plus beaux jours de notre vie ne font que commencer. Les doigts d'un autre homme me tripotent, m'écartent, me préparent. Mon dos se cabre instinctivement vers lui. Alors il me pénètre. Le premier coup de boutoir, son grognement de satisfaction. Tu vas faire exactement ce que je te dirai. Ordonne-t-il. Je ferme les yeux et je m'abandonne.